Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Narva, dernière ville estonienne avant la frontière russe, est l'objet de toutes les attentions depuis le rattachement de la Crimée à la Russie. Car près de 97% des habitants de la ville sont russophones. Les autorités ont donc multiplié les programmes et les investissements en direction de cette communauté. C'est un reportage de Cécile Debarge.
Derrière son grand bureau surmonté d'un drapeau estonien et européen, Christina Kallas sait l'ampleur de sa tâche. Depuis un an, elle est la directrice du Collège de Narva, une annexe de l'Université de Tartu. C'est ici que sont formés les futurs professeurs des écoles multilingues lancées par le gouvernement estonien dans les années 2000 et censées remplacer à terme les écoles où l'apprentissage se fait essentiellement en russe.
C'est un énorme défi pour nous de réussir ce programme. On ne peut pas échouer, ça aurait d'énormes conséquences. D'une part parce que ça voudrait dire que c'est trop compliqué d'enseigner en estonien à des jeunes dont ce n'est pas la langue maternelle. Mais surtout, cela signifierait qu'on a échoué avec la communauté russophone et ça, c'est un très gros problème. Du point de vue politique.
Aujourd'hui, à Narva, l'enseignement se fait encore principalement en russe, dans 7 écoles sur 8. Y installer ce centre de formation des professeurs dès 1999 a été l'une des premières étapes du gouvernement estonien pour tenter de favoriser l'intégration de la communauté russophone dans le pays. Une initiative qui a laissé sceptique Maria Osipovski, graphiste de 29 ans, née à Narva et issue d'une famille entièrement russophone.
Ils ont lancé ce programme pour que toutes les écoles soient multilingues. Et les gens ne sont vraiment pas contents ici à Narva, car ils estiment que les enfants doivent suivre les cours dans leur langue maternelle. Et c'est intéressant de voir comment les autorités tentent de gérer la situation désormais, notamment en faisant appel à des professeurs plus jeunes, juste parce qu'ils parlent estonien.
Si la jeune femme parle désormais couramment estonien, elle n'est pas convaincue des effets de cette politique.
Les Estoniens ont toujours eu peur de se perdre eux-mêmes au milieu des Russes. C'est pour ça qu'ils ont fait ces programmes de langue. C'était censé être des programmes d'intégration, mais au final, à bien des égards, on continue de vivre séparément.
Pourtant, dans cette région frontalière, les efforts du gouvernement ont redoublé depuis la crise en Crimée, explique Christina Kallas.
Il y a des investissements dans des infrastructures publiques avec l'aide des fonds européens. Bien sûr, il y a des investissements pour mieux aménager les espaces publics, pour développer la culture. Par exemple, après en avoir parlé pendant 20 ans, le gouvernement a finalement décidé d'ouvrir un théâtre à Narva.
Pour Christina, il est trop facile de dire que tout cela arrive trop tard. Elle préfère se concentrer sur les défis à relever pour le futur, comme Anton Praktunas, réserviste de l'armée estonienne. Issu, lui aussi, d'une famille russophone, il a décidé d'apporter son aide au programme de défense nationale proposé en option dans les lycées de la ville.
On a un programme spécial qui s'appelle le programme de votre défense nationale. Il est spécialement destiné à la jeune génération de russophones. Cela consiste à faire venir des généraux de l'armée, des hommes politiques, ici, pour intervenir pendant les leçons afin de parler notamment de la crise en Ukraine et de la situation dans le monde.
Face à ces militaires, des jeunes entre 16 et 18 ans pour qui les médias russes sont bien souvent la principale source d'information.
Ce qui est très important, c'est que les étudiants russophones n'ont bien souvent pas accès aux nombreuses informations diffusées en estonien. D'abord parce qu'ils ne comprennent pas la langue, mais aussi parce que le contexte des médias ici à Narva est un peu particulier, tout est en russe. Et puis les nombreux sites de l'armée sont tous en estonien. Moi, du coup, j'enseigne dans les deux.
Pour tenter de fournir une information différente, le gouvernement a également décidé, il y a environ un an et après près de 20 ans de pourparlers, d'ouvrir une chaîne de télévision publique en russe. Une manière aussi de contrer la propagande venue de Russie. Le journaliste Sergei Stepanov intervient régulièrement dans les émissions produites au studio de Narva. Il explique ce qui a motivé cette décision.
Parce que depuis deux ans, avec la situation en Ukraine et en Crimée, notre gouvernement a peur. Tout le monde est attentif à ce qui se passe à Narva, en Estonie, en Lituanie. Et notre gouvernement a peur parce qu'il se dit que s'il ne fait rien, il pourrait se passer la même chose ici.
Pourtant, à la question « Narva est-elle la prochaine sur la liste à rejoindre le giron russe ?», tous répondent un non catégorique, mais répètent l'importance de traiter le problème en amont et notamment auprès de la jeune génération.
La capitale macédonienne connaissait il y a 10 jours un violent épisode sismique. Un tremblement de terre de 5,3 sur l'échelle de Richter secouait Skopje avec de nombreuses répliques. De quoi réveiller de très mauvais souvenirs chez les habitants, Simon Rico.
Ivan, la trentaine, habite au 7e étage d'un immeuble construit à l'époque yougoslave. Avec son épouse, ils ont passé 2 nuits sur leur parking, de peur de ne pas avoir le temps de descendre les 7 étages en cas de grave secousse. Comme ce jeune couple, de nombreux Skopjotes ont fui leur logement et se sont rassemblés dans les parcs et autres espaces verts. Vivement critiqués pour leur gestion des inondations qui ont fait plus de 20 morts cet été, les autorités macédoniennes ont dépêché des équipes spéciales de crise dans les établissements publics pour tenter de calmer les esprits. Les Skopjotes ont fini par rentrer chez eux, mais 10 jours après, ces secousses continuent d'inquiéter la population locale. Il faut dire que cet épisode sismique réveille de bien mauvais souvenirs à la capitale macédonienne. Le 26 juillet 1963, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit la ville à 80% et fait plus de 1000 morts. Cette fois, aucune victime n'a été à déplorer, tout juste quelques blessés légers et des dégâts matériels de faible importance. Mais à Skopje, tout le monde garde en tête qu'un séisme comme celui de 1963 arrive en moyenne tous les 50 ans selon les estimations des sismologues et que de fait, le prochain devrait donc être imminent. Des rumeurs alarmistes circulent, notamment une qui assure qu'un an avant la catastrophe de 1963, la ville avait été touchée par des inondations. Après celle de début août, la paranoïa atteint des sommets à Skopje.
Les jeunes gens.
La chronique.
Bonjour Yves Minot.
Bonjour Laurent.
Alors la semaine dernière, le président de la Commission européenne faisait sa rentrée devant le Parlement européen et parmi les annonces faites ce jour-là, une s'adressait particulièrement aux jeunes, Eve.
Oui, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Cela prouve au moins que la Commission européenne n'abandonne pas tout à fait le dossier jeunesse. Quelques années après le sursaut de la garantie jeunesse, ce programme européen qui devait occuper de nombreux jeunes désœuvrés, cette fois, c'est à travers le prisme de la solidarité que la Commission européenne espère mobiliser les plus jeunes citoyens européens.
Jean-Claude Juncker qui a annoncé d'ici la fin de l'année la création d'un corps européen de solidarité.
Oui, alors le champ lexical relève du militaire, mais il s'agit plutôt d'un engagement civil, civique. Juncker espère ainsi permettre à près de 100 000 jeunes bénévoles de se rendre utiles d'ici 2020, là où l'on aurait besoin d'eux. Le président de la Commission européenne a pris par exemple la récente crise humanitaire déclenchée par le terrible tremblement de terre en Italie pour illustrer ce genre de situation dans laquelle les jeunes pourraient se rendre utiles. Mais on peut aussi penser bien évidemment que ces jeunes serait également utile dans la gestion de la crise des réfugiés qui ne cesse de secouer les gouvernements et les organisations humanitaires depuis déjà quelques années.
Mais pourtant, Eve, il existe déjà un dispositif de volontariat européen et en plus, il s'adresse aux mêmes populations, non ?
Alors c'est vrai, le service volontaire européen SVE, dont nous avons parlé plusieurs fois dans Accent d'Europe, mobilise déjà les 18-30 ans. Il leur permet de participer à un projet d'intérêt général pendant une période qui va de 2 semaines à 12 mois, selon le projet, dans un pays de l'Union européenne ou un pays partenaire de celle-ci, tout en étant indemnisé et pris en charge. Depuis sa création en 1996, il faut cependant constater qu'il ne rencontre qu'un succès relatif. Notamment parce que les participants au SVE sont souvent des jeunes diplômés issus de classes plutôt aisées. Alors pourquoi ? D'abord parce que c'est pas facile de trouver des informations sur la procédure à suivre pour devenir bénévole. Ça demande d'être un minimum initié et dans ce programme, comme le jeune doit chercher lui-même le projet auquel il veut participer, il faut souvent qu'il soit très encadré, aidé, aiguillé et les jeunes qui ne font pas d'études ou plus d'études ne sont pas suivis et donc n'en ont souvent pas connaissance.
Bon alors comment ce corps de solidarité européen compte-t-il du coup faire pour élargir son audience, Eve ?
Eh bien justement, l'idée est de corriger un peu le défaut de ce programme et de permettre cette fois-ci à des jeunes de se porter volontaires sans avoir à chercher eux-mêmes le projet auquel ils veulent participer. Ils n'auront plus qu'à se faire connaître directement des responsables du programme, à signaler en fait leur intérêt. Ils seront ensuite intégrés à une espèce de réserve citoyenne dans laquelle les organisations en charge du corps de solidarité pourront faire appel à eux en cas de besoin. Donc plus besoin d'organiser soi-même son départ, c'est le corps lui-même qui viendrait vous chercher à travers les différentes organisations qui le constituent.
Mais comment réagissent les personnes censées encadrer ce genre d'opération humanitaire ?
Alors, Il est encore tôt pour le dire, hein. L'idée vient tout juste d'être lancée, on en saura probablement plus dans les semaines qui viennent, mais les premières réactions sont plutôt encourageantes. Il y a de quoi faire, et les acteurs humanitaires, qu'il s'agisse de services publics, de fondations privées ou d'organisations non gouvernementales, les ONG, toutes concernées par ce corps européen de solidarité, se réjouissent plutôt de la réserve de main-d'œuvre volontaire que pourrait constituer ce corps de jeunes. Et c'est évident que les jeunes eux-mêmes ont tout à s'enrichir de cette expérience hors du commun qu'ils partageront avec d'autres Européens de leur âge. Encore faut-il bien sûr qu'ils soient suffisamment formés et prêts à affronter les conditions difficiles auxquelles doivent faire face les individus qui gèrent au quotidien la détresse et la misère des autres.
Merci Eve Minot, à retrouver chaque mercredi dans Accent d'Europe. Créé dans les années 70 par les Australiens Bill Mullinson et David Holmgren, la permaculture est une démarche, une philosophie qui repose sur trois axes éthiques: prendre soin de la terre, de l'humain et partager équitablement. Elle vise donc à créer des lieux de vie autosuffisants, respectueux de l'environnement et des êtres vivants. Si la permaculture est longtemps restée confidentielle, elle commence à se développer en Allemagne et de plus en plus d'exploitations agricoles en suivent les principes. Reportage de Déborah Berlioz dans une de ses fermes près de Berlin.
Quand elle regarde le paysage autour de sa ferme, Johanna s'indigne toujours un peu.
Pendant des années, ici, on a fait de l'agriculture intensive. Et au sud-est, là-bas, on voit 160 hectares de terres agricoles. Mais c'est un désert, car ces cultures ont détruit toutes les fonctions écologiques de la terre.
L'agriculture intensive a en effet favorisé l'érosion des sols et détruit la couche d'humus. Quand elle a acheté ses 2,5 hectares en 2007, cette jeune mère de famille s'est donc donné un objectif clair: soigner la terre. Pour cela, elle s'inspire des principes de la permaculture, selon lesquels l'agriculture doit forcément être biologique, sans pesticides ou engrais chimiques. Mais cela va encore plus loin. En permaculture, on cherche à imiter la nature, à recréer des écosystèmes. Le jardin maraîcher de Johanna ne ressemble donc en rien à un champ de légumes classique. Au lieu de rangs bien ordonnés, on trouve un véritable fouillis de plantes et de mauvaises herbes.
J'ai souvent des invités qui ne trouvent pas les légumes car ils n'arrivent pas à les différencier des autres herbes. Mais je me réjouis de tout ce qui pousse ici, car même les mauvaises herbes ont une fonction importante. Elles recouvrent le sol et le protègent de l'érosion.
Autour de ces cultures de légumes, Johanna a également planté des arbres et des arbustes. Ils sont essentiels notamment pour conserver l'eau dans le sol. Et cette biodiversité a d'autres avantages.
Elle ramène des oiseaux qui mangent certains nuisibles et les font fuir, ou encore des serpents qui mangent les campagnols. De plus, nous essayons de fertiliser le sol avec des plantes, car nous n'utilisons aucun engrais artificiel dans la permaculture. Nous choisissons donc les plantes de telle manière qu'elles se soutiennent les unes les autres.
Pour suivre au mieux les principes de la permaculture, il faut également limiter le recours aux énergies fossiles et donc aux machines. La plupart des travaux se font donc à la main ou à l'aide des trois chevaux de la ferme. Deux cochons et une vingtaine de poules peuplent également le terrain. Leurs excréments alimentent le compost essentiel aux cultures. Mais tout cela demande beaucoup de main-d'œuvre. Johanna et son mari emploient donc deux volontaires qui font ici leur service civil. Martin a commencé en juin dernier et il est complètement convaincu par cette approche peu classique de l'agriculture.
Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de travailler manuellement dans les champs. Travailler avec la nature, c'est génial.
Si la permaculture est longtemps restée un concept assez obscur en Allemagne, elle commence à se faire connaître. Il y a 2 ans, la chaîne de supermarchés Real a même lancé une ligne de produits issus de la permaculture. Mais leurs fruits et légumes viennent de l'étranger, ce qui agace un peu Johanna.
Il y a de nombreuses exploitations qui travaillent en permaculture en Allemagne et Real n'a pas pris contact avec elles. C'est incompréhensible. Mais naturellement, je suis contente que la permaculture devienne accessible à plus de gens, qu'elle sorte de sa niche.
Johanna doit cependant toujours faire face à un problème de taille. Ses compatriotes n'aiment pas débourser trop d'argent pour leur alimentation.
Tout le monde veut acheter des produits bio, mais ils doivent être bon marché. Alors si je cultive des légumes et que je les vends par le biais de la grande distribution, je suis sûre que cela va me rapporter très peu, à peine de quoi couvrir mes dépenses en semences ou en eau, etc. Mais il ne vaut mieux pas que je calcule mon salaire horaire, car il sera très mauvais.
Elle veut donc créer un réseau d'agriculture solidaire, sorte d'AMAP, où un groupe de citoyens paye un revenu à un agriculteur en échange de sa récolte. Pour compléter ses revenus, elle donne également des cours d'initiation à la permaculture. Mais pour Johanna, l'argent ne semble pas une priorité. Elle aime surtout le flux constant de visiteurs à sa ferme. Dernièrement, elle a même lancé un projet avec des réfugiés installés dans la région. Une fois par mois, elle les invite sur son terrain.
Nous essayons de communiquer au travers du jardinage, car la barrière de la langue est encore très présente. Nous créons ainsi une communauté à travers des choses simples, comme planter des graines dans le sol.
Johanna aime le rappeler, la permaculture, c'est bien plus que de l'agriculture. Il ne s'agit pas seulement de faire attention à la terre, il faut aussi prendre soin des êtres humains.
Reportage en Allemagne de Déborah Berlioz. En France, l'organisation Ferme d'Avenir, entre autres, défend elle aussi une agriculture respectueuse de la nature et des êtres humains. Son président, Maxime de Rostelan, applique lui-même les principes de permaculture sur son exploitation. Une pratique urgente à mettre en œuvre, selon lui.
Aujourd'hui, sans rentrer dans une grosse polémique, on sait très bien que l'agriculture est au centre de pas mal des maux de notre société, que soit le dérèglement climatique, les crises sanitaires, le chômage. Et on pense, nous, que l'agriculture, au lieu d'être au carrefour de ces problèmes, représente justement un carrefour de solutions. Et c'est ce type d'agriculture qu'on veut développer et promouvoir. C'est donc une agriculture qui travaille sur sol vivant, une agriculture qui prend soin de la terre et des hommes, et une agriculture qui fait du bien à la santé, à la biodiversité, à l'eau, à l'emploi, au territoire. Et donc c'est pas une technique agricole. Beaucoup le pensent, mais en fait c'est bien plus large que ça. C'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Ça veut dire que un chef d'entreprise peut faire de la permaculture. Il peut avoir envie que ses collaborateurs représentent un écosystème humain équilibré. Les politiques, on aimerait bien que les politiques fassent de la permaculture, qu'ils aient envie que les territoires dont ils ont la charge soient des écosystèmes humains équilibrés. Donc ça va un peu plus loin, et c'est vraiment, on travaille sur les écosystèmes, on travaille sur la diversité, sur le sol vivant, et donc on travaille avec la nature et pas contre elle.
Maxime de Rostelan, président de Ferme d'Avenir, au micro d'Accent d'Europe.
Someone, somewhere knows. I want the man who knows.
Avec la recrudescence des attentats en Europe, l'application téléphonique Telegram fait l'objet de critiques de la part des services antiterroristes. L'application sur laquelle sont échangés 10 milliards de messages par jour a été identifiée comme un moyen de communication prisé des nébuleuses islamistes. Elle a été créée par Pavel Durov. Étienne Bouche dresse son portrait.
Pavel Durov a le même âge que Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau Facebook. Il est né en 1984 à Leningrad. Tout juste sorti de l'université, il crée en 2006 Vkontaktie, réseau social qui devient rapidement le plus populaire de Russie. Son visage juvénile est l'un des plus suivis de l'internet russe. Pavel Durov est à la fois mystérieux et narcissique. On sait peu de choses sur lui et en même temps, il fait partager à sa communauté les cartes postales de sa vie idéale. Durov semble vivre un peu partout depuis qu'il a quitté la Russie. Un exil forcé. Le surdoué de l'informatique a eu quelques ennuis avec les autorités russes. Les services de renseignement lui ont demandé des informations sur certains utilisateurs de Vkontaktie qui plaisaient modérément au pouvoir. Durov a tenu tête et refusé. Il s'est retrouvé en conflit avec les actionnaires de ce réseau lorsqu'il a lancé l'application Telegram. En 2014, il démissionne de Vkontaktie et quitte le pays. Il critique le durcissement des lois encadrant Internet. Face à son concurrent WhatsApp, Telegram a fait de la protection des communications son argument numéro un. Il a néanmoins accepté des concessions en bloquant des dizaines de comptes reliés au groupe État islamique.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe, on se retrouve demain dès 17h40 TU.